Bonjour, bienvenue dans Super Burnette. Je suis Marlène. J'ai imaginé et créé ce podcast pour partager avec vous mes rencontres avec des personnes inspirantes. Parmi elles, j'ai rencontré Anne-Sophie qui a fondé l'association Elle Burn que nous appelons les Burnettes. L'association sensibilise les publics à la question du burn-out. Après des mois de fatigue, culpabilité, désespoir, il y a l'après-burnout. Cette année, j'ai à cœur d'interviewer des femmes qui témoignent des violences sexuelles et sexistes qu'elles ont subies au travail et qui les ont précipitées vers le burn-out. Beaucoup de personnes témoignent de telles violences. Aujourd'hui, on veut en parler, comprendre et surtout sensibiliser face à ce sujet grave et préoccupant. Aujourd'hui, je suis allée chez Fanny et Shelby, sa chienne. Fanny m'a raconté son burn-out et les violences sexuelles et sexistes qu'elle a subies au travail. Elles ont été très nombreuses. Elle qualifie ça de sexisme ordinaire. Cet épisode est bouleversant et touchant. J'espère qu'il vous plaira et je vous conseille d'approcher la boîte de mouchoirs, pas trop loin de vous. Fanny, merci encore pour ta confiance. Bonne écoute.
Est-ce que tu veux quand même, je vais lui passer un coup de fil parce que je sens le
truc qu'on va commencer. Ah oui, que genre on va démarrer, ouais. Il va arriver.
J'ai peur qu'il arrive.
Qu'est-ce que j'ai fait de mon téléphone ?
Ah mince, du coup j'étais en mode avion. Oui. Tu es par là ?
Je l'entends dans le...
Ok. Oui, t'es là dans 5 minutes quoi. D'accord. C'était pour pas qu'on, peut-être pas qu'on démarre et que t'arrives à ce moment-là. Voilà. On va attendre. À tout de suite. Oui, il arrive.
Ok. Bonjour Fanny.
Bonjour Marlène.
Bienvenue dans le podcast de Super Burnette.
Merci, merci de m'avoir permis de venir témoigner au micro.
Oui, alors on est toutes les deux en compagnie de Shelby, ta belle chienne.
Oui.
Aujourd'hui, pour que tu racontes ton histoire, ton parcours de burnette et de victime aussi de violences sexuelles et sexistes au travail. Mmh. Je suis ravie de d'avoir ce moment d'échange avec toi en tête à tête.
Moi aussi.
Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être que tu peux nous dire qui tu es, qui tu étais avant ce burn-out.
Oui, donc du coup, moi c'est Fanny, j'ai 39 ans, je suis mariée, j'ai deux petits gars de 8 et 11 ans, qui sont plus si petits maintenant, mais pour moi ils resteront toujours petits. J'habite en région bordelaise, je suis originaire d'un petit village du Lot, j'ai grandi dans le Lot, et puis j'ai fait mes études dans le sud-ouest, un pur cru du sud-ouest, entre Montpellier, Toulouse et Bordeaux.
Ok, d'accord, t'as pas mal voyagé, t'as fait tes études donc, dans ce triangle-là du sud-ouest.
Ouais, exactement.
Et comment t'as démarré ta carrière professionnelle ?
En gros, je suis partie dans des études scientifiques, j'étais une bonne élève à l'école, je savais pas du tout quoi faire en sortant de la terminale. Et du coup, je suis allée sur des études plutôt généralistes, type école d'ingé, j'ai fait une classe prépa et puis finalement je me suis assez vite aperçue que la classe prépa ne serait pas pour moi et j'ai bifurqué vers des études de chimie. Je cherchais quelque chose de plus professionnalisant, j'avais envie de mettre un pied directement dans l'entreprise parce que j'ai toujours aimé l'école, mais d'avoir ce côté quand même lien avec le monde du travail. Et donc je suis partie sur un IUT, master chimie environnement. Enfin voilà, j'ai fait 6 ans d'études en qualité sécurité environnement. Et mon stage de fin d'études, j'ai choisi de le faire dans une entreprise du bâtiment. Donc dans le service sécurité au travail, et c'est comme ça que j'ai débarqué dans cette fameuse entreprise dont on va parler. J'étais un petit bébé de l'entreprise, je suis arrivée en sortie d'études.
D'accord, tu as continué, donc tu as été embauchée à la suite de tes études.
Exactement.
Dans cette boîte.
Oui.
Tu y es restée combien d'années ?
Du coup, jusqu'à mon burn-out en 2021, donc de 2009 à 2021.
D'accord, ok. Comment ça a évolué pour toi justement dans cette entreprise où... Qu'est-ce que tu as pu percevoir
C'était un... Après, c'était un secteur, donc le milieu du bâtiment, un secteur essentiellement masculin et beaucoup, beaucoup d'hommes. Après, ça ne m'effrayait pas parce que j'ai grandi donc, dans le petit village, j'ai un grand frère, j'ai baigné dans le monde du foot puisque mon papa et mon frère jouaient au foot, donc j'étais beaucoup entourée de garçons. Et derrière, j'avais des copains de mon village qui étaient... pour la plupart des garçons.
Ok. Ah, bonjour.
Et en parlant de garçons.
Ah oui, on a, en parlant de garçons, voilà, il y a Mathieu qui arrive, le mari de Fanny.
Si tu veux, à un moment, témoigner de ton ressenti ouais, sur cette histoire, ça peut être intéressant d'avoir, d'avoir le point de vue, mais en 5 minutes, tu vois.
On verra tout à l'heure. Ouais. On a déjà pas mal de choses à dire.
Ouais, il fait le timide.
Il y a la personne qui le vit, qui est chamboulée, bouleversée par tout ça, abîmée, et ses proches aussi à ne pas minimiser parce que.
Ouais, il y a un retentissement énorme et je pense que lui-même a ressenti toute cette violence et ce cataclysme. Ça a bouleversé la vie de toute la famille jusqu'à. Oui, forcément, mes enfants, mon mari, mais même plus largement, mes amis, mes parents, mais on y reviendra.
Oui, on en reviendra tout à l'heure.
Donc,
tu parlais coup, voilà, de cet environnement plutôt masculin dans lequel tu as grandi.
Oui,
Et dans lequel tu étais plutôt à l'aise. Et,
Ouais, j'étais... c'était... une famille plutôt très simple, modeste, un grand frère et ouais, le monde du foot. Donc derrière, bah, je partais souvent le week-end, je suivais mon frère et mon papa sur les terrains, donc sur le bord du terrain, entouré des garçons, un ballon dans les pieds. Ça ne m'effrayait pas, enfin, c'était mon quotidien.
Au quotidien.
Exactement, okay. Et puis derrière, dans le petit village, avec mes amis dont je suis restée très proche, pareil, essentiellement... des garçons. Donc finalement, quand j'ai débarqué dans cette entreprise avec une majorité d'hommes, je n'étais pas effrayée, ce n'était pas nouveau pour moi. Maintenant, entre le quotidien et le monde du travail, il y a quand même un gouffre. Et puis, j'étais devenue une femme surtout. Donc là, l'impact n'a pas tout à fait... était le même. Donc, je sortais des études, j'avais 23 ans, j'avais un poste plutôt à responsabilité. J'étais responsable santé-sécurité, donc un rôle de fonction support dans l'entreprise pour mettre en œuvre la politique santé-sécurité du groupe sur les sites de production.
D'accord.
Donc, un fonctionnement multi-site. Et multi-activité avec pas mal de salariés, des sites de production, donc un aspect plutôt technique, commercial, et puis derrière des chantiers de construction avec des personnes qui n'étaient pas forcément salariées de l'entreprise, mais plus des ouvriers sur chantier, comme on peut voir autour de nous. Quoi. Voilà, c'était un peu mon environnement de travail. Donc j'ai débarqué là en tant que femme avec... la volonté de me prouver aussi que j'étais légitime avec l'envie de convaincre et de prendre la place que j'avais choisi de prendre avec un certain... je trouve un enjeu déjà dès le départ.
D'accord.
De se dire j'arrive, je suis jeune, donc je n'ai pas femme. D'expérience. Mmh. Je suis une femme au milieu d'hommes, donc aussi, est-ce que c'est réellement ta place ? Et puis derrière, un poste à responsabilité, entre guillemets, où j'attendais d'eux certaines choses aussi, mais sans les manager directement, donc toute la difficulté d'un management indirect, à devoir fédérer, convaincre, accompagner, sensibiliser des personnes qui étaient à différents... niveau de culture sécurité, quoi.
Ok, d'accord. Merci pour cette présentation très claire. Comment les choses commencent à se dégrader ? À quel moment tu sens qu'il y a quelque chose qui... tu as dû avoir des années de joie, de bonheur dans cette boîte. À un moment donné, est-ce que tu as repéré une transition, un moment où ça commençait
Ça, je l'identifie plutôt après coup. En fait, dans tout le travail que j'ai fait post-burnout, ça permet de prendre du recul sur la situation et d'identifier quel a été le moment de basculement dans le burn-out. Il y a plein d'étapes et on pense souvent à l'étape la plus brutale où en fait l'arbre s'effondre, mais finalement oui. Avant que l'arbre s'effondre, bah, y a toutes les racines qui pourrissent et
feuilles qui tombent,
exactement,
etc.
Et finalement les feuilles ont commencé à tomber il y a plusieurs années finalement quand j'arrive à mettre un peu le doigt dessus. Je dirais que c'est à peu près, j'ai dû passer 5 années plutôt sereine. J'aimais beaucoup ce que je faisais, je me sentais utile, je trouvais que ça avait du sens, les messages portés, puis il y avait une réelle implication de l'ensemble des personnes sur le sujet de la sécurité. Autour de 2012, ça correspond aussi à la naissance de mon fils, et puis aux premières restructurations dans l'entreprise. Il y a eu des, on y reviendra, mais il y a eu des plans sociaux sur plans sociaux, des restructurations comme ils appellent, mais derrière bah, beaucoup de mouvements. Et finalement, pour, c'est un travail de longue haleine, la santé-sécurité, c'est mettre en place des choses sur le long terme. Et là, dans des restructurations, on est vraiment sur du court terme, du one shot. On met un coup de pied dans la fourmilière et puis du coup, tout est un peu bouleversé. Donc, ça a compliqué pas mal mon travail et ça a entraîné aussi un climat plutôt anxiogène. Et là, j'ai senti que je ne me retrouvais plus totalement dans ce que je faisais, dans l'environnement dans lequel j'évoluais. Mais c'était vraiment insidieux, ça s'est mis en place petit à petit, j'en avais pas forcément conscience. Et puis quand t'es dans le train-train, en fait, c'est plutôt confortable, tu connais, tu contrôles t'identifies pas tout ça. Ou alors tu te dis, bah, là il y a une restructuration, c'est peut-être l'occasion aussi d'avoir un peu de nouveauté, c'est cool, et puis on verra comment ça se passe. Et donc finalement tu restes là-dedans, et c'est là que j'ai commencé à moins me sentir bien. Et okay. Après, sur la partie plutôt violence et le sujet aussi qui nous réunit aujourd'hui, j'ai pas à proprement parler subi d'agression sexuelle, mais c'est vrai qu'on parle, enfin, il y a pas que les agressions sexuelles. Il y a tout ce qui est harcèlement sexuel et il y a tout ce qui est aussi propos et comportements.
Les agissements.
À caractère sexiste et sexuel. Et c'est justement tout ce sexisme ordinaire qui m'a compliqué la tâche et qui a été un des facteurs qui m'ont conduit au burn-out.
D'accord. Ok. Tu peux citer des exemples de situations qui n'étaient pas OK pour toi ou qui pouvaient être étiquetées de violence sexiste?
Sur le moment, j'avais du mal à l'identifier. Et pour, en plus, en ayant baigné dans cet environnement plutôt masculin, j'aime pas du tout l'expression de garçon manqué, mais finalement c'était quand même un petit peu ça, c'était ordinaire pour moi. Les petites remarques, après quand on est jeune et ado, c'est différent des remarques qu'on peut subir sur des chantiers en tant que femme dans leur milieu, quoi. Mm-hmm. Et là c'était des regards, beaucoup de regards, d'avoir l'impression d'être de la viande fraîche, ouais.
Ouais.
Des remarques après sur la place d'une femme, des remarques un petit peu surprises de qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites là, ah bon, vous avez tel poste. Et puis après, ça a été aussi sur la tenue de travail. Donc moi, je travaillais dans le bâtiment, donc avec à la fois dans les bureaux. Habillée comme tous les jours, et puis sur les chantiers, les équipements de protection individuelle, donc la combi, le casque. Et je sentais que même en étant, en ayant justement tout cet accoutrement, quoi, malgré tout, les regards étaient très appuyés, avec parfois le sentiment qu'on ne m'écoutait pas, mais
qu'on était plus... Qu'on t'observait, qu'on décortiquait.
Ouais. Exactement, ouais. Bah, tu te sens un peu sali. Tu as l'impression que ton corps ne t'appartient pas vraiment, ou en tout cas, il est scruté dans les moindres détails. Et puis après, ça a été aussi... c'est pas évident à identifier le sexisme ordinaire, parce que c'est vraiment ancré, c'est culturel.
Ouais.
Et finalement, c'est un peu dans une réunion, « Ah bah Fanny, tu vas faire le café parce que t'es une femme. Tu vois, qui va prendre le compte-rendu de la réunion ?»« Ah bah c'est une femme parce qu'elle écrit bien ou parce que bah, une femme, c'est sérieux, ça s'applique. Et donc, c'est à elle de prendre le compte-rendu. » Enfin, tu vois, c'était un peu ce genre de choses. Et puis après, ça a été plus appuyé sur la tenue, aller animer une réunion, même un codir en jupe. Voilà, t'as plus l'impression que les personnes sont focalisées sur tes jambes que sur ton discours, quoi. Et puis sur les sites de prod, encore plus. Enfin, ils voyaient pas beaucoup de femmes. Et donc, quand j'arrivais, c'était particulier. Donc, j'avais tendance, finalement, le matin, à me travestir, en quelque sorte, finalement... revêtir des habits en me disant ok, bah là je vais mettre un jean pour pas que pour pas entraîner les regards sur moi ou pour me cacher et pour que on puisse réellement se focaliser sur le contenu du sujet, quoi.
Comme si finalement t'en étais responsable, quoi, de ces remarques. Et
oui,
en tout cas que t'avais ta part de responsabilité en fonction de la tenue que t'allais choisir ce jour-là. Une suradaptabilité
Ouais, c'est ça, une suradaptabilité, l'impression d'être sur le qui-vive un petit peu en permanence, de pas de revêtir un costume, de pas être totalement moi-même parce que l'environnement jouait beaucoup. Donc j'avais d'une part à prouver ma légitimité en tant que femme, en tant que jeune responsable, et puis je me disais qu'il fallait presque que je leur ressemble, quoi, pour qu'on parle le même langage et que cette partie-là de moi ne soit pas un facteur supplémentaire.
D'accord.
C'est des remarques qu'on connaît toutes, quoi, à te faire parfois siffler ou à des remarques sur ta tenue, sur ton décolleté. Et puis... avec le recul, tu vois, dire « Oh bah, t'as l'air fatiguée ce matin, oh bah, ton mari a dû bien s'amuser cette nuit, tu vois, des choses comme ça. Ou tu rentres dans un bureau, salut ma belle, poupée, miss. Tu sais, tous ces petits termes qui passent inaperçus, mais est-ce que moi, ça me viendrait à l'idée d'avoir un collègue qui rentre dans mon bureau et de dire « Salut beau gosse, quoi. » Non.
Non.
Alors que finalement, en tant que femme, il y avait toujours ce petit côté, la main sur l'épaule, la main dans le bas des reins quand on t'ouvre une porte, tu vois, passe devant dans l'escalier, comme ça je te retiens, puis je peux regarder ton cul. Enfin, c'était même parfois explicite. Donc dans ces situations-là, moi, mon mécanisme, c'était plutôt... l'humour, quoi, tu vois, de dédramatiser, enfin, je passais à autre chose. J'ai jamais trop été dans le conflit à remettre quelqu'un à sa place parce que c'était tellement ordinaire que finalement j'aurais presque dénoté de venir dire quelque chose là-dessus, si tu veux. C'était, pour eux, il n'y avait pas de sujet, je pense.
Ok, tellement c'était dans la normalité.
Ouais. Totalement, mais il y a plein
alors
de secteurs...
C'est choquant, là, de l'entendre au micro. Enfin, moi, ça me choque, je suis choquée. C'est non, en fait. Mais voilà, l'environnement fait que, du coup, on...
On s'en rend pas compte, en fait. Et puis, moi, c'est aussi... j'ai rien connu d'autre. Enfin, ça a été mon premier job, le premier environnement dans lequel j'ai baigné. Et donc, je me rendais pas forcément compte. Mes collègues de travail, c'était essentiellement des hommes qui tenaient des propos sur les femmes qui étaient quand même assez dégradants, sans qu'ils soient tournés, tu vois, vers moi, mais même en parlant d'autres femmes. Derrière, c'était des réunions à la frontière espagnole pour aller dans les bars peu recommandés le soir. Donc, non, Fanny, tu vas pas nous accompagner parce que, bon, tu comprends, là, c'est un peu particulier. Tu vois, cette image, cette place de la femme comme femme-objet, donc finalement, va trouver ta place dans tout ça... relativement compliqué, ouais. Donc je pense que j'avais une suradaptation, une manière de rentrer dans le moule, parce que pour moi, j'avais pas le choix.
Ouais.
C'était un peu pour
Pour survivre,
pour
en
survivre.
Fait.
Ouais, en quelque sorte. Et après, pour être tout à fait honnête, moi, les mots, je ne les ai pas mis dessus. Tout ce qui est harcèlement, sexisme, je ne les ai pas mis dessus. C'est ma psychologue, dans le cadre derrière de mon suivi de ma thérapie post-burnout. D'accord. Qui a identifié ce point-là. Dans les discussions, on a pas mal discuté de l'environnement de travail, de mon rapport aux hommes aussi. Et est venu dans la conversation ce que j'avais subi, les remarques que j'avais subi, et je j'oublierai jamais la réaction qu'elle a eue, où elle était vraiment choquée à me dire mais c'est du harcèlement, Fanny. Pour moi c'était pas le cas. Ça a été, je suis tombée de haut à ce moment-là, et d'autant plus quand on a eu, on en reparlera, mais dans le cadre de l'accompagnement par l'asso des Burnett, on a eu l'intervention d'une juriste, je crois que
oui.
C'était.
C'est Golène Alain, justement, qu'on entendra dans un autre épisode de Super Burnett.
Donc Ségolène est venue intervenir pour nous présenter qu'est-ce qu'étaient les violences sexistes et sexuelles au travail, qu'est-ce qui est des exemples, qu'est-ce qui était OK et qu'est-ce qui ne se faisait pas. Et finalement, dans le déroulé, je me souviens, je suis tombée de haut parce que dans toutes les exemples qu'elle citait, j'avais l'impression que c'était des exemples qu'elle avait pris dans mon travail. Enfin, toutes les remarques de ce type sur les regards, les comportements, parce qu'on pense souvent aux mots, aux gestes ou aux mots, mais derrière, les regards, les gestes, les comportements autour de tout ça, les petits mots. Et puis il y a tout ce qu'il y a autour du sexe, et puis il y a tout ce qu'il y a aussi autour du genre, féminin, masculin, et tout ce qui est lié à ce qu'on retrouve dans notre société. Et quand je suis notamment devenue maman, j'en parlais tout à l'heure, là aussi ça a été un sacré chamboulement, parce que derrière, au-delà des propos liés à mon statut de femme, j'ai reçu des remarques sur mon statut de mère. Donc j'avais pas le sentiment de compter, je comptais pas mes heures. J'étais passionnée, j'avais un statut cadre, j'ai toujours mis beaucoup d'engagement dans mon travail. Et là, si tu veux, à la naissance de mon fils, ça a été un chamboulement énorme, parce que je ne me suis pas rendu compte de la place qu'il viendrait occuper dans ma vie. Et j'ai eu l'impression d'avoir un choix à faire entre continuer à exceller dans mon rôle de salarié, parce que je faisais bien mon boulot et que je mettais beaucoup d'intensité, de passion dans tout ça. Et puis exceller dans mon rôle de maman. Être dans mon rôle de maman, c'est ça sous-entend être là pour lui à des heures aussi raisonnables. Et c'est devenu presque incompatible avec le rythme que j'avais dans mon boulot. Donc j'ai eu le sentiment d'avoir à faire un choix, parce que jusque-là aussi, j'avais pas de cette notion trop d'équilibre. J'ai toujours été à 100% dans les choses que je faisais, donc c'était pour moi 100% mon fils ou 100% mon job.
100% partout, forcément.
Ou 100% partout. Donc au début, j'ai essayé de faire 100% partout. Je m'épuisais, puis je me suis dit, ça va être mon boulot. Je le regrette aujourd'hui, mais j'ai fait le choix du boulot, de continuer à être la même au travail, et notamment avec la même aussi présence, la même disponibilité, au détriment de ma vie de famille aussi. Donc quand tu vas sur un site, puisque oui, je ne l'ai pas dit, mais j'intervenais sur un très grand périmètre, toujours ce fameux sud-ouest là, entre Toulouse, Brive, Bordeaux, je montais aussi en Charente et en Charente-Maritime, donc ce qui entraînait beaucoup de déplacements professionnels et beaucoup de temps de trajet. Donc derrière, c'était se lever à 5h ou 6h pour être à 8h sur les sites, et puis partir à 17h ou 18h des sites, et donc arriver ici bien après que le petit, ne pas le voir, qu'il soit déjà couché, ne pas pouvoir aller le chercher chez la nounou, ce genre de choses. Et donc je voulais pas que... Ouais, avec la maman et sa place dans le travail. En fait, pour moi, c'était déjà si tu veux, tabou d'être une femme, alors en plus d'être une femme mère, je voulais pas que ça apparaisse. C'est une façon aussi de me protéger. Mais derrière, bon, bah, ça se savait hein, que j'avais eu un petit garçon. Et donc, c'était ah bah, Fanny, si tu veux, on va arrêter plus tôt hein, pour que tu puisses aller chercher ton enfant à l'école. Ou alors, dans les discours aussi, des conversations que j'ai eues avec des managers, tu vois, dans le cadre d'un déjeuner. Ah bah non, elle, elle peut pas faire commercial parce qu'un métier de commercial, c'est pas compatible. Sa place, c'est d'aller changer les couches de son gamin, quoi. Tu vois un petit peu l'environnement dans lequel j'évoluais. Avec la femme réduite à son rôle dans les années 50, quoi.
Donc en devenant mère, du coup, ça te rajoute en fait cette couche supplémentaire à ce qui déjà était difficile à... Mais à tenir et à vivre.
Et pour avoir échangé aussi avec d'autres personnes, j'ai une amie qui est DRH dans un secteur aussi très masculin. Et en fait, c'est la même chose. Les réunions qu'on cale à 19h30, 20h, c'est un problème pour personne. Et ça ne devrait pas être un problème pour nous. Sauf que j'estime qu'à 20h, on n'a pas à être en réunion, quoi. Et finalement, si tu n'y es pas, ben... on te pointe du doigt en disant « Ah, bah, elle est allée s'occuper de ses enfants. » Mais parce que peut-être aussi les hommes, bah, ils ont leurs femmes qui sont certainement à la maison, qui vont les chercher, qui s'occupent des enfants et eux sont totalement disponibles pour leur travail. Mmh. Et moi, derrière, j'ai eu le sentiment de plus être... de pas avoir un temps extensible. Et c'était dans ma journée, quel est le temps que j'accorde à mon travail et quel est le temps que j'accorde à mon fils. Et dans mon rythme, avant son arrivée, il n'y avait pas de place pour lui. Donc, derrière...
Il a fallu changer...
Il a fallu ajuster, mais je n'ai pas voulu le faire. Donc, j'ai serré les dents. Et là, je me suis dans le processus du burn-out. Il y a un certain surengagement aussi. Mais là, c'est, je pense que ça se passe entre moi et moi, entre une femme et elle, quoi. Je pense que c'est, pour avoir écouté beaucoup de, lu beaucoup de bouquins, écouté beaucoup de podcasts, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui s'y retrouveront dans ce côté. Je veux occuper la place que je désire, je veux avoir un job comme mon mari, m'épanouir professionnellement, mais derrière, je sens que j'ai aussi... un boulot à côté et que c'est mon rôle, ou en tout cas la société souhaite que ce soit mon rôle. Les écoles, quand notre fils est malade, c'est maman qu'elles appellent. Les réunions scolaires, je vois pas beaucoup de papas, quoi. Enfin, tu vois, au niveau de la société, c'est encore hyper ancré. Donc après, je sais pas si on aura l'occasion d'échanger, enfin que Mathieu passe au micro, mais par contre, ce que je souhaite dire, c'est que on pourrait penser que j'ai grandi dans un environnement comme ça, mais en fait, ma maman a énormément travaillé. Elle a été infirmière toute sa vie. Mon papa bossait aussi, mais il a enchaîné pas mal de boulot, et finalement, c'est lui qui s'occupait pas mal de nous jusqu'à la naissance de mon frère. Elle faisait par exemple les nuits, et donc c'est mon père qui gérait. Moi, j'ai toujours vu mon père faire à manger, mon père vider la vaisselle, mon père faire les tâches ménagères. Et chez moi, c'est pareil. Mon mari fait énormément, donc j'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Et même si on partageait normal, quoi, la charge entre guillemets de nos enfants, en tant que maman, j'avais le sentiment d'avoir une responsabilité supplémentaire, parce qu'une maman, ça se doit
plus d'être par rapport à la société, en fait, finalement, que à l'histoire familiale ou
exactement. Et puis la charge, on parle beaucoup de charge mentale, mais mine de rien, ça intervient aussi, quoi. Derrière, sur avoir la tête dans le boulot, et en tout cas La charge de travail que j'avais, c'était difficile derrière d'avoir aussi de penser à tiens, ce week-end, il a l'anniversaire d'un tel, il faut que j'achète un cadeau, et puis il faut que je passe au drive ce soir, et puis aussi le côté tu rentres à la maison, et derrière moi, le travail ne restait pas à la porte, c'est-à-dire le travail rentrer à la maison parce que j'étais joignable aussi dans le cadre de mon boulot. Je pouvais être amenée à intervenir dans des urgences comme des accidents du travail ou ce genre de choses. Donc d'être joignable sur mes jours de congé ou de devoir faire du reporting ou préparer des réunions le soir quand mon fils était couché ou répondre à des mails le week-end parce que de la déconnexion, ça n'existait pas. Mmh. Derrière, quand tu n'as plus de frontières, ça devient compliqué. Le travail envahit la sphère professionnelle. Et là aussi, c'est un facteur de risque supplémentaire.
Ok. Justement, on va parler des symptômes du burn-out. Mm-mm. À quel moment ils ont apparu? Quels étaient-ils? Jusqu'au diagnostic. Mm. Tu parlais de tout à l'heure de la psychologue qui t'avait accompagnée sur cette période.
Oui.
Est-ce que lorsque ton deuxième garçon est arrivé, tu as pu faire changer un peu ta manière de travailler ou de vivre à la maison?
Oui, j'ai pas eu tellement le choix parce que ma grossesse a été assez compliquée. J'étais alitée assez tôt pour mon deuxième, donc j'ai passé beaucoup de temps à la maison et notamment avec mon aîné. Et je pense que ça a joué parce que j'ai eu le sentiment d'être passer à côté de quelque chose. Et donc, de profiter de ces moments avec lui, je me suis beaucoup questionnée sur justement l'importance que je donnais à mon travail, que j'accordais à mon travail, et puis quelle était la place de mes enfants et de ma vie de famille dans tout ça. Et quand j'ai repris, notamment pour mon premier, je n'ai pas posé de congé. Donc, j'ai repris, je l'ai déposé chez la nounou, il devait avoir 2 mois et demi à peine. Pour le deuxième, j'ai pris 6 mois. Et là, ça a été aussi très différent parce que j'ai profité et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à changer. Donc oui, je me suis déplacée moins, j'ai peut-être été moins disponible aussi. J'ai ajusté mes horaires, mais si tu veux, je pense que comme aussi ils étaient habitués à autre chose, derrière, j'ai commencé à avoir des remarques sur le fait que je faisais peut-être plus correctement mon travail, alors que j'ai jamais eu de résultats qui démontraient, si tu veux, je faisais mon job dans le temps imparti, mais j'avais du temps pour mes enfants. Sauf que quand tu pars à 4h30 d'un site, tu te prends des remarques parce que t'as pris ton après-midi derrière. Pareil, quand tu arrives à 8h30 le matin, 8h30, c'est trop... Enfin, le présentéisme, culturellement, en France, on est bon pour ça et ça ne s'arrête jamais, quoi. Mmh. Donc, j'ai essuyé ce type de remarques sur mon rôle de maman. Et puis, j'ai commencé à avoir du mal à tout concilier, ouais. Et donc, dans ma vie de famille, à être... ça me demandait beaucoup d'énergie et je me suis épuisée. Je m'épuisais au travail, je m'épuisais à la maison et donc j'ai commencé à devenir irritable, devenir assez colérique. Je criais beaucoup sur mes enfants et ça devenait, je culpabilisais énormément, donc en fait ça me rendait encore plus malheureuse. Et puis derrière, au boulot, restructuration, périmètre de plus en plus grand, responsabilité de plus en plus grande et surcharge, surmenage. Et je me sentais fatiguée, épuisée sur tous les fronts. Donc la fatigue, le côté aussi de ne plus arriver à m'organiser. J'avais l'impression de m'éparpiller sur tous les sujets. Je faisais des to-do list sur to-do list. Et puis je perdais peu à peu mon identité. J'avais l'impression de ne plus être réellement moi-même ou de ne plus savoir quelle était ma place. Ça, c'est des sentiments que j'ai ressentis sur la fin. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la crise sanitaire s'est invitée dans tout ça, dans cet environnement déjà très compliqué.
En 2020.
En 2020. Et j'étais donc responsable prévention des risques professionnels. Donc nous incombait la charge de mettre en place les procédures Covid sur les sites. Le bâtiment n'a pas été, à l'annonce du confinement en mars 2020, le bâtiment a été arrêté 2 jours, je crois, et puis finalement, il a fallu tout redémarrer.
C'est ça.
Sauf que la condition de redémarrage, c'était aussi que nos salariés soient en sécurité vis-à-vis du virus. Donc de tout soit mis en place. Et puis derrière, bah, ça sous-entendait être sur les sites du gouvernement H24, le confinement aussi, puisque tout le monde a été confiné, nous également, mais nos gars travaillent sur les sites, donc il fallait aussi y aller de temps en temps. Télétravail, compliqué, télétravail, chômage partiel. Enfin, tout ça est venu en rajouter, je pourrais en dire beaucoup, parce que ça a été la descente aux enfers, entre guillemets, quoi. À se dire, bah, on est en chômage partiel 50% et à travailler 200% de mon temps, quoi. Je travaillais dans la chambre, parce qu'on a un petit bureau dans la chambre. Mon mari s'occupait des enfants, parce que lui ne travaillait pas dans le commerce. Et donc il faisait l'école à la maison, puis il faisait à manger, et moi je sortais de la chambre, je venais manger un quart d'heure et je retournais dans la chambre, et jusqu'au soir, quoi. Moi, le confinement, je l'ai vécu dans ma chambre, et derrière à être en visio sur les documents, et puis à gérer tout le reste, quoi, sur les alertes sur les sites, et puis derrière tout le monde y allait de s'improviser en tant qu'épidémiologiste à dire que le virus il faisait comme ça, puis à devoir recadrer un milieu aussi très syndiqué, donc beaucoup de une ambiance très particulière entre la direction et les équipes. Et moi, au milieu de tout ça, à faire en sorte que les procédures soient respectées, les procédures de sécurité de manière générale, et puis sur la santé aussi. Donc oui, mon milieu, j'ai eu l'impression que mon travail avait changé. Après le Covid, on a peu à peu repris notre place aussi sur le terrain, sur les sites, mais au-delà de... d'être impliquée sur la partie sécurité, je devais un peu faire l'arbitre sur mets ton masque, au-dessus de ton nez. Enfin, tu vois, j'en devenais à...
J'avais un peu changé de métier, en fait. Hein.
Ouais, j'ai changé de métier, en quelque sorte. Ouais. J'étais une pro, une experte des procédures de cas contact et de cas contact de cas contact. derrière, Fanny, là, j'ai mangé avec ma belle-mère. Alors, son mari, il a le Covid. Est-ce que ma... Enfin, ouais, c'était ça. Et c'était ça du matin jusqu'au soir, à gérer les procédures, les appels, etc. Et puis, un milieu très anxiogène. Je suis quelqu'un, par nature, plutôt anxieuse, j'ai toujours été un peu comme ça, à beaucoup réfléchir aux risques. J'ai peut-être pas choisi ce métier par hasard. Mais le Covid a été compliqué pour moi.
Personnellement, en fait.
Okay. Ouais. J'avais beaucoup de mal avec la situation, et comme je passais mon temps en fait sur les sites et sur l'actualité, je pense que ça a amplifié le phénomène, où derrière c'est devenu presque une psychose, mais j'avais pas tellement le choix que de continuer à œuvrer, parce que ça faisait partie de mon boulot, quoi. J'étais aussi la référente sur ce sujet-là. Et puis en novembre 2020, j'ai attrapé le Covid. J'ai été hospitalisée. Et là, ça a été un élément aussi déclencheur, parce que j'ai commencé à avoir aussi des crises d'angoisse. J'ai eu ma première crise d'angoisse. Et puis à la suite de ça, donc là on était en novembre 2020, je dormais très mal, j'avais des vertiges que je ne savais pas expliquer, qu'on a mis sur le compte aussi du Covid. Je commençais à attraper un peu tout ce qui traînait, enfin j'étais pas bien, et le 23 février 2021, je me suis effondrée. On y arrive à cette fameuse date qu'on n'oublie pas. C'était un mardi, je rentrais à la maison quelques temps auparavant, enfin je rentrais à la maison et puis j'étais très fatiguée, j'étais en colère, j'avais tendance à pleurer aussi parfois, et là la veille, le 22 février, on a eu une réunion, et si tu veux j'ai eu beaucoup de mal à gérer, je suis rentrée chez moi en pleurs. J'étais effondrée, j'y arrivais plus. Le lendemain matin, j'avais une visio, et en fait, dans le cadre de la visio, si tu veux, avec mes collègues de travail, mon équipe, en fait, on travaillait tous ensemble, et j'avais demandé à faire un point sur nos missions, parce que moi, je me sentais complètement dépassée par tout ce qu'on devait faire en début d'année. Et donc, je disais, vous en êtes où là-dessus, et finalement... Je me disais, non, Fanny, ça, non, mais on ne fait pas, ou ça, ce n'est pas une priorité, laisse tomber, ou ça... Sauf que moi, je ne mettais pas des choses de côté, parce que je voulais tout faire à fond. Et là, je suis ressortie de cette réunion et je me suis écroulée, en fait. Je me suis dit, mais je suis en train de m'épuiser et de... Enfin, ça atteint ma santé et ma santé mentale. J'étais au plus mal, sauf que je ne lâche rien. Et pour moi, bah, y avait, voilà, on serre les fesses, on prend des vacances et puis on y va. Sauf que mon mari était à la maison et quand il m'a vu sortir de cette énième réunion en larmes, il m'a pris rendez-vous chez le médecin. Donc c'est Mathieu qui m'a amenée chez mon médecin ce jour-là et je me suis effondrée devant le médecin qui n'a pas tout de suite mis les mots mais qui m'a dit « je vous arrête 15 jours ». Pour moi, 15 jours, c'était énorme.
Oui.
15 jours, je lui ai dit « je ne peux pas, je ne peux pas m'arrêter 15 jours, c'est pas possible, j'ai une réunion avec 50 personnes la semaine prochaine, je peux pas leur faire ça, et puis là-dessus ». On se sent, c'est fou, hein, parce qu'on se dit, on se sent presque indispensable ou...
Dire, complètement, oui.
Ouais. Et puis, il n'y a que ça. Enfin, vraiment, on a une mission en tête. Et puis, non, je ne pouvais pas m'absenter. Ce n'était pas possible pour moi. Sauf que je n'ai pas eu le choix. Donc, on m'a demandé bah, d'éteindre mon ordi du boulot, d'éteindre mon téléphone du boulot et de me reposer. Et là, bah, j'ai fait le bon élève. Donc, j'ai pris du repos. J'ai lu. En ayant toujours en tête que j'y retournerai, que j'allais leur faire plaisir, me reposer, mais que j'y retournerai. Et puis, mon médecin, en parallèle, a lancé des prises de sang, en fait, pour voir un petit peu tout ça, des examens. Et quand je suis arrivée au bout de 15 jours dans son bureau, en étant persuadée qu'il me renverrait au boulot, là, je crois qu'il a mis le doigt sur... Enfin, il a prononcé le mot « burn-out ». Et ça a été un choc. Il m'a demandé de remplir le questionnaire de ma Slack. Et j'étais... les scores, j'explosais les scores. Et là, il m'a dit, en fait, ouais, c'est un burn-out. Vous faites un burn-out. Donc, stop. Au niveau de mes analyses, ça n'était pas bonne. J'avais énormément de choses qui n'allaient pas. Et là, je me suis écroulée. Enfin, mon corps s'est écroulé, si tu veux. Et il s'est exprimé, il s'est mis en alerte sous forme de crise, d'angoisse et de panique incessante. Du matin au soir, j'étais en crise d'angoisse. Je ne comprenais plus ce qui m'arrivait. J'avais l'impression d'être dépossédée de ce corps qui... Tu vois, mon mental, il tournait toujours. Lui, il était à bloc, quoi. C'était le hamster dans sa roue. Il y va. Et mon corps... Silence radio, il n'y a plus personne. Quoi. Mmh. Et là, ça a été très difficile parce qu'on a dû me calmer. Et pour ça, il a fallu que je prenne des anxiolytiques. Donc, pendant une période, j'étais sous anxiolytiques très fort, trois fois par jour. En fait, j'étais un zombie pour justement éviter d'être en crise. Parce que je suis allée jusqu'à la crise de panique. Quoi.
Et tu avais ces crises à la maison ?
Ouais.
Chez toi ?
Oui, j'avais ces crises.
Tu n'as jamais envisagé l'hospitalisation ?
Si, ça a été énoncé parce que mon mari, à ce moment-là, était en janvier 2021. Les commerces ont refermé jusqu'au mois de mai, de mémoire. Et donc moi, en février, il était à la maison. Mmh. Les enfants, je crois, avaient toujours école. Ce qui fait qu'il a été tout le temps avec moi.
D'accord.
Je voyais le médecin toutes les semaines. On a pas mal tâtonné au niveau des médicaments,
oui.
Parce qu'il fallait trouver quelque chose qui m'apaise, et lui est médecin généraliste, mais il n'est pas psychiatre, et si tu veux, au bout d'un moment, on arrivait un peu au-delà de ses compétences, quoi.
Oui.
Et trouver un psychiatre, c'était mission impossible. Il a essayé d'en trouver, il ne trouvait pas. Et donc, à un moment, la question a été mise sur la table. Ouais, mon mari aussi allait s'entretenir avec lui plusieurs fois. Il suivait beaucoup mon état, mais aussi l'état de mon époux. Et à un moment, il lui a dit, de toute façon, si ça prend trop d'ampleur, il faudra songer à l'hospitaliser. Ouais.
Oui, on ne pouvait pas te laisser comme ça.
Non. Et, sauf que, on a finalement trouvé des médicaments qui ont réussi à me shooter.
Pour que tu dormes.
Ouais, mais je dormais même pas en fait. Ah, j'avais les yeux ouverts, mais je dormais pas. Donc je passais mes journées entre le lit, le plus souvent à regarder le plafond toute la journée. J'ai souvenir de me dire une coquille vide. J'en ai discuté avec une Bernette il y a pas très longtemps et me disait qu'elle avait ressenti la notion de coquille vide. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Mmh. J'avais l'impression d'être dissociée totalement de mon corps, qui prenait des décisions pour moi et que je n'avais plus le contrôle de rien. Mmh. Et donc là, ça a été, j'ai lutté. Et c'est là où ça a été très, très long pour moi, parce que j'ai beaucoup lutté. J'ai eu beaucoup de mal à lâcher prise. Et même quand j'étais dans ces moments-là, j'avais toujours un objectif de reprendre.
De reprendre le travail ?
Ouais, de reprendre le travail. Dans ma tête, c'était tu te soignes, tu fais ce qu'il faut. Dans mon boulot, je faisais de la gestion de projet. Voilà, tu as une problématique, tu mets en place ton plan d'action et tu déroules tes actions. Action 1, tu prends tes médicaments. Action 2, tu vas voir un psy. Ben, dans ma tête, c'était ça. Donc, je suis allée voir un psy et puis j'ai entamé une thérapie. Mais au fond de moi, il y avait toujours un peu de déni, ouais.
Ça prend du temps, hein.
Oui.
Énormément de temps.
Et au bout de 6 mois, je me suis sentie mieux. J'ai eu une grande phase de... C'est le chien, désolée. J'ai eu une grande phase de lit, canapé, parce qu'au bout d'un moment, ton corps, de toute façon, il est épuisé. Donc, il faut dormir, en fait. Et quand j'ai commencé à être un peu moins fatiguée, ben, je suis repartie pleine balle. J'étais arrêtée en février. J'avais pour objectif de reprendre le travail, ou du moins un travail, en septembre. Donc au bout de 6 mois. Et en septembre, ben, je me suis dit, c'est peut-être l'entreprise qui ne me convient plus. Je tire un trait, change de boîte et ça va aller. Et j'ai passé un entretien grâce à une amie voilà, qui m'a conseillé sur un job, une créature de poste. Je me suis dit, bon, une création de poste, pardon. Pourquoi pas ? J'ai passé un entretien et en fait, le jour où ils m'ont rappelé pour me dire que c'était bon, je me suis effondrée une deuxième fois. Donc ça, c'était en octobre.
D'accord.
Et là, ça a été pire que la première fois parce que j'ai pris conscience qu'il y avait réellement un problème et que il allait me falloir du temps. Et le temps pour une burn-out, c'est très compliqué.
Le deuxième effet qui se coule.
Deuxième effet qui se coule et plus violent encore que la première. Puisque là, j'étais déjà sous médicaments, donc okay. Ça a été très compliqué de m'apaiser parce que reprise des crises d'angoisse, mais derrière un mal-être puissance 1000 et un sentiment... Je pense que j'ai sombré peu à peu du burn-out à la dépression.
Ok, à ce moment-là, tu rentrais sous une forme de dépression.
Je pense que je suis rentrée sous une forme de dépression. C'est vrai qu'on a tendance à faire un peu l'amalgame et à confondre burn-out et dépression. Pour moi, c'est pas du tout la même. Et j'ai vraiment ressenti ça, où dans la phase de burn-out, pour moi, j'avais l'envie vraiment, mais j'avais pas d'énergie. Mon corps ne suivait plus, j'étais out, batterie à plat, alors que dans la dépression, là, si tu veux, j'ai baissé les bras et je me suis retrouvée où j'aurais pu avoir l'énergie, mais j'avais plus d'envie.
Tu avais des idées noires peut-être même, tu étais vraiment dans un
malheur. Là, sont apparues les
tristesse.
Les idées noires, ouais.
Ah, okay.
Je relisais dans cette période-là, j'ai écrit, parce qu'on parlera peut-être de ce qui m'a aidée. L'écriture m'a beaucoup aidée de poser les mots en fait sur le papier, ça me faisait beaucoup beaucoup de bien et j'ai retrouvé en fait ce que j'écrivais à ce moment-là et c'est terriblement violent quoi.
Okay.
C'est j'ai eu des idées noires, j'ai eu l'impression d'être un poids et une charge pour ma famille qui ne comprenait pas ce qui m'arrivait, clairement, qui ne savait plus comment m'aider. Mes médecins, je les ai sentis aussi un peu, mon médecin généraliste qui a été extraordinaire à un moment, arrivé à un stade où il ne savait plus quoi faire pour moi. Et là, je me suis dit, ok, je suis une charge, je suis un poids pour ma famille, je suis un poids pour mes enfants, pour mes parents, ma mère qui devait venir à la maison s'occuper de moi parce qu'on ne pouvait pas me laisser seule, ma belle-mère qui s'est aussi, qui a pris beaucoup le relais. Je me disais, ce sera peut-être plus simple si je ne suis pas là. Donc,
C'est
très compliqué.
Ah oui.
Très, très compliqué. Et pour sortir de là, il a fallu les médicaments et du temps. Et puis, quand on en est là, on a l'impression qu'on ne s'en sortira pas. J'avais l'impression que c'était... Ouais, je me disais que c'est, en fait, c'était la seule solution possible. Et puis, on me disait, tu verras, ça ira mieux. Enfin, vraiment, tu vas t'en sortir. Mais je l'entendais pas. Enfin, t'es dans un brouillard, quoi. Tu mets tes lunettes noires le matin et tu vois tout en noir. Enfin, et tu vois pas d'issue. Ça te semble trop...
Ouais. Trop dur.
Oui. Mais je m'en suis sortie.
Ben oui, qu'est-ce qui on a du mal à... Oui, il y a de l'émotion. Qu'est-ce qui a fait là qu'à un moment donné, ces lunettes noires, tu as pu les laisser sur la table un matin? Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui t'a fait tenir là à la vie?
Mes proches.
Je pense à un moment précis, ouais. Ouais, un déclic.
Oui, oui.
En plus.
Quand ça n'allait pas, j'avais besoin de parler. En fait, je n'ai pas eu ce côté à me recroqueviller. Si tu veux, je me sentais à bout de souffle. Et la seule issue pour moi, c'était d'avoir quelqu'un qui me parle, qui me raconte d'autres choses. Enfin, je ne sais pas, de me distraire, en fait, et de plus penser à tout ça. Et donc, j'ai appelé, en fait. Et j'avais du mal à appeler mes parents. J'ai appelé ma meilleure amie et j'ai appelé beaucoup ma belle-mère. Et elle a connu un épisode difficile, elle aussi. Et je me souviens d'un jour en particulier où je l'ai appelée et je lui ai dit « Là, je pense... » Elle m'a dit « Je sais à quoi tu penses, Fanny, mais il n'en est pas question. » Et en fait, je me souviens lui avoir dit « Mais pourquoi ?» Pourquoi vous faites ça pour moi? Et elle m'a dit parce qu'on t'aime. Et ouais, je pense qu'à partir de là, ça a été le déclic.
Qui s'est,
le déclic.
Qui s'est rallumé. Ouais.
De voir ma famille hyper mal, mes parents en pleurs, mes beaux-parents en pleurs. Enfin. Et de se dire, en fait, t'as de la valeur. Et donc, je pense que ça a été un élément, ouais. D'être entourée. Si j'ai un conseil à donner, c'est d'être entourée. Et d'être entourée des personnes qui nous aiment. Et qui nous aiment pas pour ce qu'on fait, mais qui nous aiment pour ce qu'on est. Et ça, moi, j'avais l'impression d'exister que par mon métier, que par mon poste, que par mon organisation, ma rigueur et mon engagement. Et j'avais pas l'impression d'être une belle personne au-delà de ça, tu vois.
Mais tu avais oublié qui tu étais ou tu ne savais pas qui tu étais?
Pense que je l'ai jamais trop su, ouais. Donc derrière, de se dire, ok, là ils sont avec moi dans les moments les plus difficiles et ils sont présents et ils m'aiment, ils ne me lâcheront pas. Et ça... Ça a été super précieux, donc je pense que c'est ça qui m'a aidée. Après, ça ne s'est pas fait sans effort, ça ne s'est pas fait sans douleur. J'ai perdu sur 6 mois, j'ai perdu 15 kilos. Mon mari a perdu énormément de poids aussi. Mes parents ont été dévastés.
Bah oui, toute la famille est ébranlée.
Toute la famille a été ébranlée par tout ça. C'est énorme.
Ouais, c'est une épreuve, c'est l'épreuve d'une vie en fait.
C'est l'épreuve d'une vie, c'est ça. Donc parfois quand on entend parler de burn-out, comme quoi c'est quelque chose à la mode, comme quoi c'est juste qu'on n'a pas envie de travailler, qu'on ne fait pas d'efforts, ben, c'est difficile parce qu'on ne voit pas en fait. On nous voit sous... Une des clés, c'est de sortir, en fait. Une des clés, c'est de prendre plaisir à faire les choses. Donc, ça sous-entend aussi d'aller se promener, de rire, de sourire, de voir des gens qui nous aiment, de se vider la tête. Et sauf que quand on est comme ça et qu'on est potentiellement susceptible de croiser quelqu'un de notre travail, bah, il aura l'impression qu'on va bien. Et puis, il nous dira fatalement, ça a l'air d'aller, t'en es où, toi? Et en fait, ils ne se rendent pas compte à quel point... ça nuit, ça fait mal d'entendre ça parce que c'est qu'une partie de l'iceberg en fait.
Exactement.
Et qui ne voit pas tout le ouais, tout ce qui se joue à côté.
Et pourtant, s'il y avait un seul conseil, en tout cas moi, le premier conseil que ma psychologue m'avait donné, c'était de se reconnecter justement à cette forme de joie qui me semblait complètement inatteignable, impossible, invisible, inexistante, mais finalement, et après coup, c'est vraiment...
Et puis de la culpabilité de la ressentir, cette joie.
Oui, c'est ça, vis-à-vis de l'autre.
Vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la société, de se dire je suis en arrêt. Et là, on me demande de ressentir de la joie.
Ouais.
On me demande en fait de ne plus penser au travail et d'aller prendre un cours de poterie, d'aller expérimenter des choses alors que tu te dis...
Pour se reconnecter à la vie, en fait.
Exactement. Sauf que, sauf que y a les injonctions aussi. Hein, et que finalement, je pense aussi, comme on en parle peu... c'est tabou tout ça, même nos proches, hein, certains n'ont pas compris et ont finalement, je pense, l'impression qu'on passe du bon temps et qu'on n'a juste pas envie. Mais non, on se reconnecte à soi et on se découvre. Et en fait, se découvrir, ça demande beaucoup de courage et beaucoup de temps.
Et toi, tu te découvres comment ?
Je me découvre... Petit à petit, je me découvre. J'ai toujours ce qui m'a aidé, mes ressources, tu l'auras compris, ça a été mes proches. Et puis les livres. Moi, j'ai grandi, j'ai été baignée dans une marmite de livres quand j'étais petite. Donc forcément, les livres m'ont beaucoup aidée. Mais il y a une période où je n'arrivais plus à lire et ça a été extrêmement frustrant pour moi. Mais derrière, de pouvoir m'évader, de pouvoir découvrir de nouvelles histoires, de nouveaux personnages, c'est très précieux pour moi. J'ai ce côté où j'ai besoin d'être seule et en même temps, j'ai besoin de voir du monde. Enfin, tu vois, et ces deux phases-là créent un certain équilibre très précieux pour moi. Donc les livres, le dessin, les puzzles, les balades en forêt, les jeux en famille. Je suis plutôt quelqu'un d'assez simple, avec des plaisirs simples, mais super précieux.
Encore plus aujourd'hui.
Il y a une citation qui dit que le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour de la Terre, mais celui qui a fait une fois le tour de lui-même.
Oui.
C'est un peu comme ça que je le vois. Ah. C'est de se dire qu'on n'a pas besoin d'aller bien loin pour trouver le bonheur.
D'accord. Et c'est ta psychologue, du coup, qui t'a amenée dans la partie plus médicale.
C'est un accompagnement par... ça, c'est hyper important aussi d'avoir un bon médecin. Je pense que tu auras compris que moi, il a joué un rôle essentiel. Je pense qu'il m'aurait dit, comme je l'entends parfois, là, c'est juste que vous n'êtes pas bien au travail, vous démissionnez et vous changez de boulot. Ça m'aurait... En fait, j'aurais sombré, quoi. C'est pas la solution, en fait. Au tout début, la solution n'est pas de partir. La solution est
surtout pas de partir.
La solution est de se soigner. Et donc, donc je me suis soignée grâce à une thérapeute que je vois encore aujourd'hui. Ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi. Et je vois toujours ma psy. Après, on ajuste un petit peu la fréquence en fonction des besoins. J'ai réussi aussi à avoir un rendez-vous avec une psychiatre au centre médico-psychologique. C'est très long pour avoir rendez-vous avec quelqu'un, mais j'ai réussi. Et puis à avoir aussi des infirmières. Et ça m'a beaucoup aidée, puisqu'il y avait toute la partie aussi médicamenteuse. Tout le monde n'a pas besoin de passer par là, mais moi, ça a été une béquille pour arriver justement à faire tout ce parcours psychologique derrière. Il fallait apaiser la machine, ouais.
Donc, est-ce que tu as toujours un traitement, là, aujourd'hui ?
Ouais, j'ai toujours un traitement. Je prends plus d'anxiolytiques. Les anxiolytiques, c'était vraiment dans les phases de panique et d'angoisse. Par contre, je suis sous antidépresseur et c'est OK. Et je pense pas que j'aurais réussi à m'en sortir sans ça, parce que justement quand t'es dans le brouillard, t'as pas de perspective, quoi. Et t'envisages pas envisager sereinement et faire un parcours, un travail de fond en fait, dans cette phase là c'est là où les médicaments peuvent avoir leur importance. Je suis pas pro médicaments, mais voilà, ça s'adapte à chacune et pour moi ça a été indispensable. Donc je les prends toujours et l'idée ce sera de les arrêter quand tout sera plutôt stable. Là, la situation actuelle, c'est que je suis dans une phase de licenciement pour inaptitude. Et c'est un soulagement pour moi de pouvoir quitter cette entreprise, même si je pars en bon terme. Ça, c'est... c'est plus l'organisation générale et l'environnement qui était toxique pour moi. Mais ouais, je suis soulagée de tourner la page et c'est quelque chose de nouveau qui s'ouvre.
Une grande transition.
Ouais, une grande transition. Mais voilà, j'ai pris le temps et j'avais besoin de ce temps-là pour me soigner. Et après la phase de soins, il y a la phase de remobilisation professionnelle.
Déjà bien entamée l'année dernière avec le programme Burnett is Back que tu as suivi avec les filles.
Oui, et ça, ça a été là aussi un élément qui m'a beaucoup aidée. En parallèle des proches, de la thérapie, des médecins, l'asso a été très puissante pour moi. Ouais. Au bout d'un an à rester vraiment confinée, à pouvoir voir personne sans avoir la moindre crise d'angoisse, j'ai réussi à sortir de chez moi et je crois qu'une des premières fois c'était pour venir à l'association.
Ok, tu viens de l'atelier ou
Ouais, c'était le 8 mars 2022, c'était à l'inauguration de la maison des Burnett à Bordeaux. J'avais eu une écoute une quinzaine de jours avant et Laurence, je me rappelle, m'avait dit « Écoute, ce jour-là, Fanny, il y aura des Burnett et vas-y. » Et ça me semblait insurmontable. Je me disais ben non. Et en fait, mais qu'est-ce que ça fait du bien de parler le même langage. En fait, ça aussi, c'est hyper important de trouver des personnes sur lesquelles s'appuyer qui ont vécu la même chose que nous. Des pères. Et c'est là où c'est vraiment précieux d'avoir une association comme ça, avec des belles personnes comme ça. Je me suis sentie tout de suite à ma place, tout de suite accueillie, soutenue. On peut pleurer et on se comprend et c'est OK. Donc, j'ai commencé à faire des ateliers, de groupes de parole. J'en ai versé des larmes. des ateliers aussi sur le bien-être. Et puis est arrivée cette candidature pour le programme Burnett is Back, qui est tombée, je pense, pile à un moment où justement je me disais, là, j'ai envie de réfléchir à la suite et je me sens prête. Et donc, c'est tombé parfaitement. Et là, j'ai rencontré un petit groupe d'une dizaine de filles extraordinaires avec des parcours de vie assez différents, mais quelque chose qui nous unit, c'est le burn-out et des ateliers. Et puis, ce côté aussi bénévolat, pouvoir s'investir dans l'association, c'est la possibilité de retrouver confiance en soi et en ses capacités. Parce que la confiance, elle disparaît, elle brûle avec le burn-out, la confiance. Et donc, une des clés pour rebondir, c'est de reprendre confiance. Et Anne-Sophie le dit très bien, c'est quand on commence à faire les choses et qu'on se rend compte qu'on en est capable et qu'on le fait bien, que ça nous redonne confiance en nous et en nos capacités. Donc là, par le biais du bénévolat, sans pression, avec des personnes super bienveillantes, on remet la main... à la pâte, quoi. On se lève le matin, on fait des tâches, on remet la tête dans le travail, entre guillemets. Moi, j'avais l'impression, je disais aux enfants, je vais au travail. Ils me disent, tu vas voir les Burnett. Je dis, oui, je vais au Burnett aujourd'hui, je vais au travail. Et puis, on travaille une journée et on dort 3 jours de suite.
Au début. Après, un petit peu moins.
Et puis après, un petit peu moins. Et jusqu'au final, à la fin, de se dire qu'on a trouvé de véritables pères et même des... C'est une famille pour moi.
Ouais, une communauté.
Une vraie communauté de personnes qui...
Un collectif. J'aime mieux le mot collectif que communauté.
Un collectif et la force de ce collectif. Au-delà de ce qu'on nous a donné comme clé à travailler sur nos valeurs, sur nous-mêmes, sur nos compétences, etc. C'est cette... les échanges avec ces filles qui étaient super précieux. Et puis de pouvoir se soutenir et rien n'est linéaire dans le burn-out.
Les émotions partagées, traversées,
on apprend à justement, en fait, à en avoir des émotions.
À s'autoriser.
Oui, à s'autoriser. Je
vais jouer, Shelby.
Elle veut jouer. Mais les filles ont... C'était marrant aussi d'avoir un retour des filles sur la façon dont elles nous voient. Et moi, ouais, je sais que ce qui revenait beaucoup, c'était ma sensibilité. Et c'est vraiment le dernier mot que j'aurais trouvé pour me caractériser.
C'est top. Mais oui, c'est découvrir, en fait.
Exactement. Ouais. Et je pense que cette sensibilité, je l'avais mise très, très loin sous mon armure, sous ma carapace, parce que pour moi, elle n'avait pas le droit de s'exprimer dans le milieu dans lequel j'évoluais. Et là, aujourd'hui, je m'autorise. Oui, je suis sensible. Et en fait, je ne suis pas... Je ne culpabilise pas d'être sensible. Et je trouve qu'au contraire, en fait, c'est une force et on devrait se servir de cette force-là aussi dans le travail. De ne pas vouloir toujours cacher ses émotions, de devoir être fort. Mais c'est un conditionnement, quoi. Et finalement, les émotions devraient avoir leur place dans le milieu du travail. Ouais.
C'est chouette. Aujourd'hui, tu t'ouvres à des projections professionnelles. Qu'est-ce que tu envisages ? Qu'est-ce qui te ferait vibrer ? Comment tu te visualises dans quelques années ?
Je me visualise heureuse et entourée de mes proches, surtout.
J'ai été sûre que tu allais dire ça.
Oui, la chance que tu auras compris que mon petit la cocon...
Ouais. L'amour qui existe.
Ouais. C'est ça. Ma famille et mes amis, ouais. Mon petit mari, mes enfants, c'est tout.
Avant toute chose.
Oui. Et puis derrière, un épanouissement, parce que pour moi, le travail, c'est pas... je sais que pour certains, ça peut être gagner de l'argent, avoir un statut social. Moi, le travail, c'est pour moi quelque chose... Je dois m'épanouir dans le travail. Mon épanouissement personnel passe par le travail. Donc derrière, c'est trouver quelque chose qui me fait vibrer. Alors attention de ne pas y mettre trop
de vibrations.
De vibrations, mais c'est ça aussi qu'on apprend. On apprend à doser, à trouver cet équilibre. Mais par contre, je pense que le métier que j'avais choisi, je ne l'avais pas choisi non plus par hasard. J'ai eu envie à un moment de tout jeter et puis d'aller élever des chèvres dans le Larzac, à me dire que peut-être c'était ça, ma mission de vie. Et puis finalement, non, je pense que la prévention des risques, ça fait partie de moi, mais j'ai aussi envie de me servir de mon burn-out, de mon expérience et de mon vécu pour peut-être aller sur la partie risques psychosociaux aussi. La santé mentale, je m'intéresse énormément à tous les contenus, podcasts, bouquins sur l'équilibre pro-perso, le monde du travail aujourd'hui, et puis pouvoir au fond semer la graine pour nos générations futures. Faire en sorte, moi je ne pourrais pas me coucher à l'ombre de l'arbre que j'ai semé, mais si eux peuvent en profiter, ce sera déjà top. Donc après, de quelle manière, c'est pas encore totalement précis. Mais en tout cas, il y a quelque chose.
Ça se dessine. J'aime bien, tu as repris l'image de l'arbre que tu avais évoquée au tout départ avec les feuilles qui tombaient et les racines complètement.
Là, je plante l'arbre et puis j'espère que les enfants profiteront de son ombre. On veut tout le temps, on veut souvent avoir l'impact, en fait, ce côté je veux voir le résultat de mes actions. Mais je pense que dans ces secteurs-là et sur ces thématiques-là, c'est un chemin très très long, semé d'embûches. Mais j'ai envie de me dire que même si je sème ma graine, ça peut me nourrir, faire en sorte que l'arbre il pousse droit et puis derrière, que nos enfants travaillent dans de bonnes conditions. Il va falloir que les choses changent, persuadée.
Merci, merci beaucoup Fanny.
Merci à toi Marlène, ça m'a fait du bien, j'ai énormément apprécié témoigner et puis j'espère sincèrement que ça pourra peut-être éveiller les consciences, inspirer certaines qui se sentent au bout du rouleau et je vous assure on s'en sort et on est toutes passées par là et c'est difficile et un pas après l'autre.
Merci.
Merci à toi.
À bientôt.
À bientôt.
Je vous propose, si vous avez aimé, de nous laisser votre avis, à partager ce podcast tout autour de vous. Pour nous aider, nous les Burnettes, à lever le tabou sur la question du burn-out, c'est de cette manière-là que nous ferons changer les choses. pour en savoir davantage sur l'action et les événements de l'association Elle Burn, connaître la communauté des burnettes. Rendez-vous sur les réseaux. À bientôt.